Pour toi, téléfoot était la messe, France Football la Bible, le kick and rush c'était le foot anglais, ta NBA c'était le calcio, et tu sais que François Perrin était l'ailier droit de Trinquant. Alors reste avec nous, tu vas t'éclater. Francky, Fabien, Manu et Yolan, habitent 30 ans, vous parlent de foot, de culture et de vintage. C'est le FC Vintage. Salut Manu.
Salut à tous.
Salut Fabien.
Salut à tous.
Salut Francky.
Salut à tous.
Les garçons, pour cette première, on ne pouvait pas passer à côté du décès du grand Diego Maradona, la légende, qui nous a quittés le 25 novembre, à l'âge de 60 ans. Il laisse le football orphelin, il nous laisse tous orphelins. Je me tourne vers toi, Manu. Il représentait quoi, Diego ?
Ah, la classe, ce qu'on pouvait faire avec un ballon, ce qu'on rêvait de faire tous avec un ballon, lui, il le faisait sur un terrain, avec une balle de tennis, avec une balle de ping-pong, avec une orange. Donc, le dribbleur par excellence.
Francky ?
Ah, pour moi, c'est comme le président De Laurentiis de Naples. C'est Caravage. C'est un peintre du XVIIe siècle qui était sulfureux, génial et complètement addict à multiples choses. C'est ça pour moi, Maradona.
Et on vous a dit qu'il y avait de la culture, hein ? Et Fabien ?
Eh bien, écoute, moi, c'est un petit peu comme Manu. Pour moi, c'est quand même un génie du football et... avec toutes les pirouettes qu'il peut faire, tous les gestes de foot énormes qu'il nous a mis en place. Donc voilà.
Et si tu avais qu'une image à retenir, Fabien ?
Bah moi, par rapport à ça, à son génie, c'était surtout... moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'aimais bien aller jouer dehors. Quand il a fait la Coupe du Monde, surtout en 86, quand il a fait la finale. Moi, je m'identifiais à lui et puis j'allais dehors et je pensais que j'étais comme lui, mais bon, c'était pas le même niveau.
Oui, moi aussi, je pensais que j'étais comme lui, mais je me retrouvais toujours par terre, hein, le nez dans le gazon. Francky ?
Ah bah pour moi, c'est 86, hein, le deuxième but contre l'Angleterre. C'est l'apogée du football pour moi.
Oui, et puis on y reviendra justement avec ce but de la main qui a tant fait parler. Toi, Manu ?
Moi, c'est l'échauffement à Naples avec la musique de Life is Life avec Carreca. Voilà, le gars tout décontracte, je m'échauffe, sûr de lui. C'était en dansant en plus, donc c'est cette image-là. Quoi.
Et les lacets des faits ?
Et les lacets des faits, tout à fait.
Ouais. Alors moi, ce que je me souviens comme image, c'est Diego l'insaisissable. Non seulement pour les défenseurs, mais aussi les journalistes, parce qu'on a revu pléthore d'images de buts de Diego. Quand il célèbre ses buts, il part près des tribunes. Et à chaque fois, vous avez des journalistes qui se mangent des gamelles, mais alors absolument vidéo-gaguesque. Vidéo-gag, bien sûr, émission de notre génération. Alors Maradona, pour comprendre sa carrière, mais aussi l'homme, on doit remonter à son enfance. El Pibe de Oro, il vit dans la misère, des bidonvilles de Buenos Aires. Il dira « J'ai vécu dans une maison privée d'eau et d'électricité ». Il avait de l'esprit déjà. Francky, est-ce que cette enfance, elle permet de mieux cerner ou mieux comprendre ce personnage ?
Diego, il est difficile à cerner. C'est quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement complexe. Hein. On l'a vu dans tout au long de sa carrière et même après. Il est difficilement compréhensible parfois. Ce qui est sûr, c'est que si on prend son surnom de LPB de Oro, ça prend tout son sens aujourd'hui.
C'est-à-dire
c'est quand même un gamin qui a vécu dans la misère, sous une dictature, qui s'est retrouvé la poule aux œufs d'or, un chef de famille de tout un clan, voire d'un quartier. C'est la fierté à la fois d'un pays, du football. Forcément, tout est démesuré très très tôt pour cet homme. Et forcément, ça engendre la suite.
Oui, effectivement, ça a engendré pour lui, malheureusement, toute la suite. Alors, Diego démarre sa carrière à 15 ans et 11 mois au club d'Argentinos Juniors. Et déjà, à l'époque, c'est l'un des joueurs les plus précoces de l'histoire. On l'annonce comme l'héritier de Pelé. Hein. On raconte là-bas, on voit des images, hein, on raconte que on lui touche les cheveux comme si c'était une divinité. Il y a même une femme qui va lui déposer un enfant. Alors lui, Diego, il est tout penaud avec ce gamin parce qu'il sait pas quoi faire. C'est comme s'il était le pape, quoi. Manu, toi qui es un... Bon, On peut le dire, t'es un amoureux de Pelé. Est-ce que l'héritage était pas trop lourd à porter comme ça pour lui à cet âge?
Je pense que si, je pense que si, d'être comparé à quelqu'un qui avait déjà gagné 3 Coupes du Monde, effectivement, ça devait être, à mon sens, un peu lourd à porter. Bien qu'il aurait pu, effectivement, avec les participations qu'il a faites à la Coupe du Monde, il aurait pu, effectivement, au moins arriver à sa hauteur en termes de palmarès.
Alors il a des stats qui font mal à la tête, hein, avec Argentinos Junior, 166 buts, 115 matchs. Alors pour un gamin qui avait entre 16 et 20 ans, hein, c'est-à-dire que ces stats-là, c'est entre, on va dire, 16 et à peine 21 ans. Pour toi, Fabien, qui est un attaquant, hein, qui était le plus buteur de la clique, hein, parce qu'on a tous été footballeurs, alors à des niveaux... On a tous joué au même niveau, mais on n'avait pas tous le même niveau. Voilà, hein, il faut un peu de tout dans une équipe. Mais toi, Fabien,
Il y a
tu
des postes
étais,
différents.
voilà, des postes différents.
Mais on était une équipe.
Et on était une équipe. Mais on y reviendra, on y reviendra, on parlera de ce football qui était le nôtre. Et Fabien, quand tu vois ces stats-là pour un gamin, ça fait mal à la tête, en fait.
Bah écoute, c'est effectivement c'est quelque chose de très impressionnant, surtout pour son jeune âge. Comme le disait Francky, en plus il arrive des quartiers populaires. Il est mis sur le toit du monde comme ça directement. Je pense qu'il a fait un sacré chemin et il a mis vraiment tout le monde de son côté avec toutes ses acrobaties et ses dribbles. Et
Alors,
ses buts également.
Diego va connaître sa première grande déception. Il n'est pas sélectionné par Menotti pour la Coupe du Monde 78, qui a lieu en Argentine. C'était, on va dire, la Coupe du Monde des Argentins. L'Argentine va gagner la Coupe du Monde, hein, mais malheureusement, Diego ne sera pas là. C'est la première grosse déception. Mais il va se rattraper en 79. Il finira meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur. Et l'Argentine sera championne du monde en battant l'équipe de Russie. Et 78, nous, on était un peu trop jeunes, les gars. Hein. Clairement, on était encore dans nos couches, hein, pour certains. Manu, comment tu expliques ce choix de Menotti de ne pas le sélectionner? Ça paraît un peu bizarre parce que 78, on parle beaucoup de Maradona. C'est un choix qui est très étonnant.
Bah, il a peut-être voulu le protéger, je sais pas. Effectivement, là, c'est quelque chose où j'ai des moins bons souvenirs de cette Coupe du Monde, mais je pense qu'il a peut-être voulu le protéger, vu qu'il était jeune encore. Donc, il a peut-être voulu le protéger. Je vois que ça, à mon sens.
Moi, j'ai une théorie là-dessus, mais elle n'engage que moi-même. Il fallait un numéro 10, qui a été Mario Kempes, et je me suis demandé si Menotti s'est pas dit, bah, il y aura un numéro 10. Je peux pas emmener Maradona si c'est pour le mettre un petit peu sur le banc. C'est peut-être une question qu'on peut se poser, mais tu as raison. On peut aussi imaginer qu'il a souhaité le protéger.
Ouais, j'ai une question, c'était de savoir, est-ce que, bizarrement, 78, c'est vrai que dans les stades de la Coupe du Monde, c'est pas celle qui m'a plus marqué. L'Argentine la mérite vraiment ou...
L'Argentine la mérite vraiment, c'est toujours pareil. Il y a des matchs de qualification qui sont un petit peu, on va dire, un peu hasardeux, c'est-à-dire que l'Argentine a besoin d'un score assez large face au Pérou et il va y avoir une intervention politique qui va permettre de libérer des otages. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux, ça va se finir avec un score fleuve pour l'Argentine, comme par hasard. On peut se souvenir aussi du match face à l'équipe de France où il y a eu certaines, même si les Français l'ont dit, on est plus parti en Argentine, un peu ambiance club de vacances. Mais sur ce match-là, il peut y avoir des regrets parce que des décisions d'arbitre litigieuses. Bon, c'est vrai que c'est pas une Coupe du Monde qui restera dans les annales. Francky, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je voulais juste par rapport à la Coupe du Monde 78, c'est une Coupe du Monde qui est très discutée et discutable,
Bien
puisqu'elle
sûr.
s'est jouée sous une dictature.
Ouais.
Donc, beaucoup disent que la victoire de l'Argentine était programmée, mais pas programmée au niveau du football, programmée tout court. Ça fait un peu référence aussi à la victoire de l'Allemagne en 54, qui était aussi qui a été très discutée. Donc voilà, il y a un mélange de sport, de football, de beaucoup de choses qui font qu'elle ne reste pas dans les mémoires.
Oui, surtout 54 a été discuté parce que justement disputé par une équipe de Hongrie absolument fabuleuse, peut-être l'une des plus grandes équipes de tous les temps. Là encore une fois, nous on ne se réfère qu'à nos lectures ou au peu d'images que l'on a vues, mais forcément on se souvient de cette Coupe du Monde 78 sans Cruyff aussi. Ça a été une déception. Alors il y a cette histoire incroyable, le gardien de Boca qui va déclarer: ouais, bon, Maradona, bah, c'est rien qu'un petit gros qui sait bien jouer au foot, quoi. Et là, Diego, lui, il va lui dire: bah, ok, parfait, très bien, je vais lui mettre 2 buts. Et juste avant le match, il revient sur sa décision, on vient l'interviewer, et il dit: finalement, j'ai changé d'avis, je vais lui en mettre 4. Et c'est ce qui va se passer, il va lui en mettre 4 avec un coup franc absolument magnifique. Bah, Fabien, ça, pour moi, ça s'est passé, je crois que c'était en 79, cette anecdote, hein, donc il a pas encore 20 ans. Ça, c'est la patte du compétiteur, ça.
Bah, tout à fait, en fait, quand tu commences à faire un match en te disant que tu vas en mettre 4, alors de toute façon, quand on rentrait sur les terrains, enfin, je vous connais, on était tous pareils, on voulait forcément gagner. De là à...
Moi, je voulais plier mon attaquant.
De là à pouvoir dire combien on allait mettre de buts, je pense qu'on n'était pas au même niveau. Mais non, mais c'est sûr que quand il rentre... Mais après, pour avoir vu des images encore récemment, tu sens que Maradona, il avait une confiance en lui et il arrivait même à être un peu meneur. Avec ses gars, avec son équipe, et ça, je l'avais pas vu moi avant. Je le connaissais en tant que joueur, mais je pense qu'il a bien mené son équipe, et c'était un homme à forte poigne, mais qui arrivait à amener les gens où il voulait, en fait, si tu veux.
Mais il arrivait à les dépasser, hein. On reviendra tout à l'heure avec les équipes de Naples et d'Argentine, qui n'étaient pas des équipes extraordinaires, mais il arrivait en fait finalement à transcender des garçons grâce à son leadership. Alors Le mythe de Diego prend forme en 81, parce que River lui fait les yeux doux, et il préfère aller chez Boca, qui est le club de son cœur. Francky, c'est intéressant cette anecdote, parce que finalement, Diego, il va devenir l'homme du peuple par ce choix.
Alors oui, il a tout au long de sa carrière, et même après, été considéré comme un des hommes du peuple, voire le représentant du peuple. Par contre, je mettrais un léger bémol à ce choix de Boca, puisque le Barça était déjà sur lui, sauf que le gouvernement a refusé le transfert de Diego parce que c'était l'image de l'Argentine et il considérait qu'il devait rester au pays. Donc c'est un choix un peu par défaut, comme l'a été son transfert à Naples aussi suite à son départ du Barça. Néanmoins, tout au long de sa vie, effectivement, alors, j'ai un léger doute sur le fait qu'il soit réellement un homme du peuple. J'ai toujours un petit doute. Je ne sais pas s'il a joué la carte du peuple ou s'il était le véritable représentant. Je ne sais pas.
Ouais, de toi à moi, Francky, si dans sa carrière, il n'avait pas été à Boca, il y a été par la suite, mais il était moins au sommet de son art, bah, ça aurait été un manque. On aurait... C'était formidable quand même cette aventure à Boca, même si elle était courte, même si on peut dire qu'il aurait dû partir 10 fois.
Oui, bien sûr, l'image est belle, mais c'est important de rappeler le contexte.
Alors, il y a la Coupe du Monde 82, là on a un peu plus de souvenirs, même si c'est des souvenirs un peu moins importants, parce que nous avions 6 ans à l'époque, et... C'est une Coupe du Monde, en tout cas nous on a connu la déception française, hein, avec cette élimination en demi-finale face à la RFA, mais c'est aussi une déception pour l'Argentine, et surtout pour Maradona et cette magnifique équipe, parce qu'il y a vraiment du beau monde dans cette équipe. Mais Diego, on va dire, se fait littéralement maltraiter. Rendez-vous compte, il va prendre 23 fautes contre l'équipe de l'Italie, avec Gentile qui va le soigner aux petits oignons. Au passage, on peut aussi rendre hommage, parce que la Coupe du Monde 82, c'est la Coupe du Monde de Paolo Rossi. Paolo Rossi qui finit meilleur buteur, qui finit Ballon d'Or, et qui nous a quittés aujourd'hui. Et Diego, il craque. Il craque, il va mettre un high kick à la Bruce Lee contre le Brésil. Alors, toi Manu, tu es un peu la caution technique du groupe, hein. Fabien était le buteur, toi tu étais la caution technique. On reviendra pas sur les deux latéraux qui travaillaient pour vous, mais en proportion avec ce qu'il a pris, franchement, c'est presque étonnant qu'il n'ait pas plus pété les plombs Maradona. Parce
Mais
que
carrément,
je voudrais juste te dire un truc. Moi, il y a un truc qui m'a toujours impressionné chez lui. C'est la classe de ce bonhomme qui se faisait découper dans tous les sens et qui se relevait quasiment sans broncher.
non, mais carrément, carrément, c'est-à-dire le gars, et puis il faut revenir à 82, où les fautes, les cartons jaunes, ils tombaient moins facilement qu'aujourd'hui, et les rouges encore moins même, on va dire,
Ah, c'était pas du foot de poète, hein.
où on avait le droit d'arrêter méchamment. Les joueurs, donc ouais, non, le mec il a eu le droit enfin, tout à son honneur, de pas péter les plombs plus que ça, puisque voilà, quand vous êtes comme ça, techniquement à l'aise, c'est clair que c'est un réel plaisir de pouvoir éliminer les joueurs, et puis du coup, de se faire découper méchamment, c'est clair que le mec qu'il ait pas plus pété les plombs, chapeau à lui. Hein.
Fabien, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, je voulais dire que, comme disait Manu, en plus, bon, bah, effectivement, en tant qu'attaquant, toujours, tu sais que tu vas en ramasser. Et je pense qu'en plus, ayant son génie et sa force, il a été souvent victime de projets avant match pour dire on va le décalquer. Et puis comme ça, en fait, c'était tu taclais Diego, tu le sortais du match et tu gagnais ton match. Hein, donc. En plus donc là, forcément, si tu veux, c'est très compliqué pour lui parce qu'il savait que toute l'équipe voulait le tacler ou lui faire mal pour qu'il puisse sortir. Donc c'était, je pense qu'il faut avoir un sacré mental.
Oui, mais tu crois pas si bien dire, Fabien, parce que El Pibe de Oro va poser ses valises au Barça et il va jouer de malchance. Il contracte une hépatite qui l'éloigne des terrains et puis il y a ce véritable attentat de Goygoechea. Et là, Diego est à nouveau éloigné des terrains. On lui dit qu'il sera absent pendant 6 mois. Finalement, il va revenir au bout de 3 mois, ce qui est absolument extraordinaire. Et malheureusement, c'est là qu'il va commencer à flirter avec sa plus vilaine fiancée, c'est-à-dire la cocaïne. Francky, à qui la faute? À l'entourage ou à sa fragilité?
Oh, je pense que c'est un peu de tout, à son histoire, à son entourage, à la pression énorme qu'il devait subir à tout moment. Tu pars d'un milieu défavorisé, et du jour au lendemain, t'es le dieu sur terre et tout est ouvert en fait. Toutes les portes s'ouvrent, les plus belles femmes du monde sont à tes pieds, tout le monde devient ton ami. C'est un peu Manny dans Scarface, quoi, c'est open bar.
C'est
Donc
ça.
forcément, c'est super difficile. Et puis, il faut pas oublier que il est encore très jeune, qu'il quitte pour la première fois l'Argentine. On le sait, hein, les footballeurs pros, souvent, c'est difficile pour eux les premières années en Europe. Donc, tout est fait pour que ça soit guinguette, quoi.
Et Francky, il est victime de racisme. Parce qu'on dit que on l'appelle le métèque. Donc quand on connaît Maradona et qu'on sait la rébellion qui est la sienne, ça a dû être quelque chose qui a été difficile. En plus, il a besoin qu'on l'aime.
Oui, en fait, c'est l'Espagne après Franco, hein,
C'est
c'est pas
ça.
très très vieux. Donc, c'est les étrangers, il n'y en a pas tant que ça. Faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait droit qu'à 3 étrangers par club. Donc, forcément, tout est réuni pour que ce soit compliqué. Et pourtant, il s'en sort.
Oui, et puis d'ailleurs, tu parles d'étrangers, celui avec qui il va s'entendre comme larron en foire, c'est Bernd Schuster, avec qui, alors avec qui on reviendra aussi sur cette anecdote, évidemment, et vous avez certainement vu les images de ce match face à l'Atlético Bilbao. Finalement, on a beaucoup entendu de son passage au Barça comme un échec, et pourtant il est élu meilleur joueur la première année. Et il a des stats qui sont vraiment bonnes, hein. Il a 58 rencontres, il a marqué 38 buts. Il va se faire ovationner par le public du Real. Alors ça, c'est déjà un trophée en soi. Mais moi, je dirais plutôt qu'un échec, est-ce qu'on peut pas plutôt parler de regret ou de malchance? Je trouve que c'est un peu dur de dire que c'est un échec. Quand j'entends ça, j'ai un peu de mal.
Il a fait quoi? Il a fait 2 ans?
Il a fait
Trois?
3 ans.
Ouais, 3 ans, je sais pas si 3 ans, effectivement, peut-être un peu plus de temps pour pouvoir. Ouais, parce que le Barça à cette époque-là, sur la scène européenne, ils ont rien fait d'extraordinaire.
Je t'ai dit une bêtise,
Non.
c'est 2 ans, il me semble. Mais bon,
Ouais, il me semblait que c'était 2 ans
oui,
aussi,
il me
ouais.
semblait que c'était 2 ans.
Mais ouais, 200, c'est en raison de plus pour que ce soit encore plus court et avoir des regrets, effectivement.
Ouais,
Oui, parce que.
après, il faut bien dire aussi à nos auditeurs que le Barça de notre ami enfin Maradona, c'est pas le Barça d'aujourd'hui, c'est pas le Barça qui a trusté tous les titres. D'ailleurs, Barça va gagner sa première Coupe des Champions, à l'époque c'est même pas la Ligue des Champions, en 92, sur un but de Ronald Koeman, sur un coup franc absolument magnifique,
Contre
mais
Sampdoria.
contre la Sampdoria exactement de Viali, Mancini et Catenaccio de l'époque. Mais il faut bien aussi se dire
C'est
une...
plus récent que 80, c'est 92, c'est plus récent que 78 dans mon esprit.
C'est plus récent, effectivement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, le Barça n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, à part Cruyff, qui a commencé à
Ah
un peu
mais
faire
ça reste
parler
quand
du
même
Barça.
un gros d'Espagne. Ah, c'est un gros d'Espagne qui avait quand même des aspirations, qui avait déjà fait des finales de C1 malgré tout.
Qui avait fait des finales de C1, effectivement. Alors, on peut
Alors
parler.
qu'ils n'en aient pas eu au palmarès, je suis d'accord, mais ça reste quand même. On va pas comparer le Barça de l'époque à Rennes d'aujourd'hui.
Non,
Ils
non.
étaient déjà une grosse équipe, quoi.
Toujours dans la nuance, Manu, c'est très agréable. alors, y a un regret. Moi, j'ai un regret, je vais vous dire, au Barça. C'est que Maradona devait évoluer avec Mágico González. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Mágico González, Maradona en a fait le plus grand joueur de l'histoire. Il avait une coupe de cheveux qui me rappelait un des personnages du Muppet Show. Il a joué à Cadix. C'était un joueur qui était très fort, hein. Il aurait dribblé un peu comme toi, Manu, 6 joueurs dans une cabine téléphonique. Et il y a cette tournée au Cosmos de New York. Et donc, l'ami Mágico González va faire un essai. Et ils sont dans l'hôtel, et à ce moment-là, Maradona, pour rigoler, hein, parce qu'il avait un côté enfantin, il va allumer l'alarme incendie. Alors tout le monde va sortir, les dirigeants voient tous les joueurs qui sont sortis, à part Mágico González. Et quand ils vont ouvrir la porte dans la chambre de Mágico González, il n'est pas tout seul, et donc je ne vous ferai pas de dessin, parce qu'effectivement, il était très bien accompagné. Il ne devait pas être tout seul, et pas tout seul non plus, avec tout ce qu'il
Dans
avait
sa
bu
tête.
comme alcool et dans sa tête. Mais c'est une histoire que je trouve absolument extraordinaire. Alors le divorce est consommé avec le Barça lors de la finale de la Coupe du Roi. Donc Bernd Schuster qui se prend pour Hulk Hogan, hein, je vous le disais tout à l'heure. Maradona qui se prend pour Tito Santana, big up pour tous les amateurs des superstars du catch dans les années 90. Là encore une fois, le LPB des Oro construit sa légende. Hein, il va aller s'excuser avec une image très très amusante. On le voit avec sa coupe afro et son agent. Il va aller s'excuser auprès du roi. Et il va partir à Naples. Et alors là, honnêtement, je sais pas, mais pour moi, Manu, je me dis pour l'époque, mais c'est un choix qui est incompréhensible.
Mais clairement, 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 parce qu'effectivement, Naples, alors déjà Barcelone sur la scène européenne, alors mis quelques finales, ils n'ont rien fait, mais là, Naples, c'est pareil, même au niveau italien. Ils n'avaient rien gagné avec le championnat, enfin, en championnat italien, et effectivement, c'est un peu surprenant qu'il atterrisse là-haut, à Naples, à cette époque-là.
Francky, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, toujours dans la nuance, en fait, suite à ce qui s'est passé au Barça, c'est-à-dire la bagarre en Coupe du Roi, les sorties nocturnes, le début de la consommation de coke. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a aucun club qui s'était vraiment positionné pour recruter Maradona, surtout que c'était déjà très très cher. Donc c'est encore une fois un peu un choix par défaut, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé d'autres clubs non plus.
Oui,
Ouais,
Fabien.
ce que je voulais dire, moi, c'est qu'effectivement, après, pareil, en ce qui concerne Naples, il a choisi, je pense, Naples parce que c'est plutôt populaire. En Italie, tu as plutôt le Turin ou Milan qui sont plutôt du côté nord et qui sont beaucoup plus élitistes. Donc, je pense que ça a dû jouer dans son comportement et son choix. Donc, voilà, je pensais que
Oui, une ville qui lui
ça
ressemble
pouvait.
un peu. Hein, Fabien, c'est une ville qui lui ressemble, c'est une ville qui ressemble un peu à l'Argentine d'ailleurs.
C'est ça, exactement.
Ouais. Alors, Diego raconte dans son livre, hein, il arrive à Naples, la première saison, elle est très difficile et en plus, il est sur la paille parce que, qu'est-ce qui se passe, Francky? Je crois que Sitter Spiller, son agent, raconte-nous un peu.
Poli dans Rocky,
Ouais,
enfin, Poli
c'est exactement ça, ben ouais, c'est Poli dans Rocky.
Ben, en fait, il a fait de très très mauvais placements et ben, il s'occupait de sa carrière comme il pouvait, hein, puisque c'était un de ses meilleurs amis d'enfance. Donc, on imagine qu'il a vécu dans les mêmes conditions et je suppose qu'il n'a pas eu beaucoup d'éducation. Donc, forcément, vous confiez vos avoirs à ce type de personnage qui était pour le coup un vrai personnage à la Don King, hein, puisqu'il avait des cheveux hirsutes, il boitait, enfin bon, c'était impossible quoi, c'est pas les agents d'aujourd'hui. Et donc, il arrive à Naples complètement ruiné.
Oui, mais en fait, Sitter Spiller, on peut dire aussi, c'est quand même l'agent qui, lors du passage à Barcelone, l'a pas tellement protégé. Parce que en fait, quand tu dis poli, c'est très amusant comme ça nous fait rire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un choix affectif. Et en fait, finalement, le gars, il a absolument pas les billes, il connaît rien. Il est agent comme moi, je suis boucher charcutier.
Ouais, complètement, complètement, c'est exactement ça. C'est le meilleur pote qui occupe-toi de mes affaires, mais qui connaît rien, quoi. Et on le voit encore aujourd'hui dans le foot, hein, des gens qui tiennent des bars à chicha ou d'autres types de magasins et qui s'imaginent un jeu. Donc c'est une tuerie, quoi.
Bien sûr,
En sachant
Fabien.
qu'à l'époque. Ouais, en sachant qu'à l'époque, les joueurs n'avaient pas les agents ou les conseillers en communication ou tout ce que tu peux retrouver aujourd'hui, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. Après, si tu as la famille qui était derrière, ça pouvait passer. Bon, là, quand tu n'as pas vraiment de proches qui peuvent t'aider, c'est encore plus compliqué. Aujourd'hui, ça serait peut-être un peu plus facile à faire.
Ouais, puis des parents, on peut le dire, un peu dépassés, parce que on le voit bien, c'est assez compliqué finalement pour les parents de gérer ce côté joueur professionnel qu'est Diego. C'est vrai, Francky, toi, tu as eu un frère qui a eu aussi à un moment donné caressé l'élite. Tu l'as souvent dit, c'était pas facile pour mes parents de pouvoir gérer quelque chose comme ça. C'est pas évident, hein. Faut avoir du monde pour être entouré.
Non, c'est difficile, c'est un nouveau monde. On parle d'argent, on parle de carrière, on parle de réussite ou d'échec. C'est un vrai tourbillon. D'ailleurs, dans les années 80, on a eu nous aussi en France quelques exemples, hein, avec José Touré, Stéphane Paille, qui ont aussi malheureusement vécu des choses très très difficiles.
Et Bruno Bellone, par rapport à son,
Et...
à son agent, qui était un agent qu'il connaissait, donc effectivement, on l'ajouter. On embrasse Sandy au passage, en espérant qu'il nous écoute. Alors, puisqu'on parlait de carrière un petit peu, on va dire un petit peu, sa rapport avec son agent un peu difficile, les choses vont commencer à aller beaucoup mieux pour lui, dès lors que Guillermo Coppola, va s'occuper de sa carrière. Guillermo Coppola va déjà abandonner les 200 joueurs dont il s'occupe, et il va s'occuper exclusivement de Diego. Et Coppola va prendre entre quatre yeux Diego. Et il va lui dire, bon, ok, Diego, qu'est-ce qui va pas? Parce que le début de saison à Naples est assez moyen. Les résultats sont un peu en dents de scie, l'équipe de Naples fonctionne pas terrible, et finalement Diego dit, écoute, moi ça va pas, je peux pas sortir de chez moi, je vis les volets clos, je suis en pleine déprime. Et Coppola va lui dire, bon, parfait, j'ai bien entendu Diego, occupe-toi et contente-toi de jouer au foot, moi je vais m'occuper de ta vie. Et là encore, on va comprendre finalement. On va comprendre que pour l'homme, c'était difficile de vivre cette pression parce que Coppola va privatiser des discothèques. Et dans ces discothèques, évidemment, il y aura de la cocaïne. Évidemment, il y aura des filles, de l'alcool et des mafieux. Et là encore, Francky, voilà, on parlait de l'homme, mais cette étape-là, c'est une étape où il a voulu se réfugier dans des paradis artificiels, finalement, dans une vie parallèle parce qu'il n'était pas bien.
Bah c'est, il faut se rendre compte qu'il est encore très jeune, je crois qu'il a quel âge? 26 ans. Il se retrouve au centre
Même pas.
de l'attention, même pas, donc au centre de l'attention de toute une ville qui est un peu comme à l'image de Marseille, un village au final, où tout se sait, tout se voit, tout se dit. Donc c'est extrêmement compliqué d'avoir une vie, je dirais, saine dans ce type d'environnement. Donc forcément, il avait besoin de se réfugier dans quelque chose. Après, les choix qu'il a faits, bon, ils sont discutables, mais c'est cela qu'il a pris.
Fabien?
Bah, moi, je suis étonné parce que je pense que bah, par rapport aux images que j'ai revues là, avec le mental qu'il avait, j'étais très étonné que malgré un mental d'acier, alors après je peux comprendre, hein, je comprends Francky ce que tu dis, mais qu'il ait basculé et qu'il ait pas pu justement penser que ça pouvait, parce que je pense que ça a quand même atteint sa carrière, tu vois, se dire maman, bon bah je rentre pas là-dedans, j'essaye de sortir de là. Maintenant, il a été dans un, il a été très très jeune dans un quartier populaire, donc effectivement quand tu as t'as tout ce qui arrive autour de toi, tu peux péter les plombs. Et puis après, bon, il aimait les plaisirs de la vie, il adorait aussi être aimé. Donc,
Mais tu sais, Fabien, comme disait le grand philosophe Dominique Grimaud, Diego est petit, mais Maradona est grand. Alors on peut dire Maradona est grand, mais Diego est petit, c'est ça. Et je pense que finalement, pour comprendre Diego, il faut aussi comprendre qu'il avait une part, cette part d'ombre. Manu, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, non, mais effectivement, le côté, je suis un peu partagé en fait par rapport à ça, parce que ça fait de lui ce personnage,
Ça te fait rêver, dis-le.
quelque part, ouais, non, non, quelque part, ça, sans ça, est-ce qu'il, enfin, il aurait peut-être explosé toutes les stats, toutes les, on sait pas, on saura jamais, mais maintenant en fait, avec le fait qu'il soit décédé. On se rend compte que bah, c'était un tout et qu'il y avait du bien comme du moins bien, mais que ouais, ça donne. Enfin voilà, on saura
Mais
pas, mais ça
Manu,
constitue le personnage.
Manu, ça lui donne un côté rockstar, qu'on se le dise. Le fait est que
Mais
ce
oui,
soit un
enfin moi.
joueur exceptionnel qui allait en boîte de nuit, qui faisait pomper l'op tous les soirs, et qui en plus de ça était super performant, c'est un côté rockstar.
Mais le côté performance par rapport à ça, effectivement, en fait, ce qui compte, c'est de se sentir bien. Et il y en a qui ont peut-être besoin d'aller danser jusqu'à 5 h du mat pour se sentir bien et pour pouvoir jouer le lendemain.
Oui, non mais d'ailleurs, il y a une anecdote comme ça très rapidement, hein. C'est Jean-Louis Gasset qui avait pris Souleymane Diawara, le
Exactement.
défenseur, pour lui dire, écoute,
Exactement.
sors en boîte de nuit, va faire des soirées infirmières parce que tu mets pas un pied devant l'autre, et le gars, juste après, il est au-dessus du lot. Alors, sportivement, il va bonifier l'équipe de Naples, hein, c'est incontestable. Maradona va aller voir le président Ferlano pour préparer les saisons à venir. Et il va lui dire, bah, il faut améliorer l'équipe, hein, parce que je peux pas tout faire tout seul. Et Ferlando lui dit, bah, mais attends, t'es gentil, Diego, comment tu veux que je fasse? Et Maradona va lui répondre, bah, écoute, c'est très simple, hein, président. Dès qu'un joueur se fait siffler par tout le public, tu le dégages. Et c'est exactement ce que va faire Ferlano. Et là, l'équipe va prendre forme. Et l'équipe de Naples va commencer à devenir une très très grande équipe. Mais on arrive évidemment à cette Coupe du Monde 86, et là le mythe Diego qui démarre. Alors il faut bien comprendre que nous, on n'avait que 10 ans hein, pendant cette Coupe du Monde. Fabien, on avait peu de football à la télé, il faut le dire. Mais quand on a vu Diego, nous, c'était un peu comme quand on a vu Goldorak, quoi. C'était un choc interplanétaire.
Ben moi, c'est ce qui m'a donné envie, en fait, à jouer au football. Alors, j'ai quand même regardé un peu plus l'équipe de France, pour être honnête. Mais je me rappelle de cette finale, justement, jouée dans mon jardin, et je me rappelle me prendre pour Maradona. Mais c'est moi, j'ai commencé à 10 ans, donc c'était à peu près l'âge où je voulais jouer au football. Bon, ma mère, elle voulait absolument me mettre au judo, et ça, bon, on a changé après. Mais c'est des. Effectivement, c'était ça qui m'a fait prendre conscience du foot et de tout ce qu'il y avait de beau à faire. Et il a amené cette petite étincelle pour nous attirer, quoi, entre guillemets.
Francky?
Bah, c'est surtout qu'on a eu l'impression qu'il y avait lui et les autres.
Ouais, c'est
parce que c'était une très très belle Coupe du Monde. Hein. Il y avait de sacrés joueurs présents dans différentes équipes. Et pourtant, on voyait que lui. Donc c'est ça qui est impressionnant.
Oui, c'est vrai, il n'y avait pas une très très grande équipe.
C'est la Coupe du Monde où on a peut-être eu une des meilleures générations de l'équipe de France, une des meilleures générations du football belge. Enfin, il y avait tout à cette
le Brésil,
ils sont tous au taquet, le Brésil.
Allez, les gars, ouais, hey, les gars,
l'Allemagne,
Danemark avec Elkaër Larsen et Laudrup et Lerby.
Ouais.
On peut
voilà,
aussi,
voilà,
et
voilà.
Les Écossais qui avaient, comment dire, Alex Ferguson, il y avait Daglish, Souness, il y avait l'Uruguay avec Francescoli, il y avait, enfin, moi, pour moi, Manu, ce que tu dis. C'est qu'on avait certainement des générations. Et oubliez pas, tiens, la Quinta del Buitre avec l'Espagne.
Oui, l'Espagne.
On avait une génération absolument. D'ailleurs, Butragueño finira dans les trois premiers du Ballon d'Or, puisque en 87, si je ne m'abuse. Mais effectivement, c'était une équipe, une Coupe du Monde très très disputée. Alors, clairement, il y a eu la main de Dieu, il y a eu le but du siècle. Je crois que là-dessus, tout a été dit. Tout a été dit. C'est-à-dire, on a beaucoup entendu, on a revu les images 1000 fois, 20 fois. Bon, à chaque fois, on s'en lasse pas. Mais moi, il y a un truc que j'ai trouvé hallucinant, c'est dans un SoFoot. Dans un SoFoot, on voit que les Anglais racontent comment ils ont vécu le but de Maradona. Maradona qui était arrivé, manifestement, il avait fait la fête la veille, avec un chapeau de paille. Et tous les types disent, il faisait 40 degrés, nous, on était complètement carbo. Deuxième mi-temps, et au moment de ce but, Diego, c'est Speedy Gonzalez, quoi. Il est inarrêtable. Tous les gars sont cramés, sauf lui. C'est l'acte qu'il propulse à ce moment-là au sommet, quoi.
Oui, c'est l'acte qu'il propulse au sommet. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que c'était un joueur de génie, évidemment, mais c'était un sacré athlète, en fait.
Eh oui.
On oublie très très souvent de le dire parce que ben, dans les derniers temps, on l'a vu, il était fatigué avec de l'embonpoint, etc. Mais quand vous le regardez vraiment, c'est une boule de muscles.
Ah, c'est
et
clair.
Le nombre de blessures, d'agressions qu'il a subies, à chaque fois il s'est relevé et revenait plus fort. C'était vraiment un athlète.
Et il n'était pas grand.
Il faisait 1m65. Et effectivement, comme le dit Francky, quand on le voit, il est très 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 musclé, hein. On voit les bras qui sont très musclés, les cuisses très musclées. Alors, on va pas disséquer encore plus ce but de la main, même si moi je voudrais juste ramener un peu sur cette légende du but de la main où on a dit que Maradona se prenait pour Dieu. Il faut savoir que dans la religion chrétienne et dans d'autres religions aussi, le fait de dire que c'est la main de Dieu, c'est souvent, oui, la providence, c'est Dieu qui l'a voulu. Maradona l'a vraisemblablement interprété comme ça. D'autres ont pensé qu'il se prenait pour Dieu, même si peut-être Diego s'est pris pour Dieu par la suite. Mais bon, je voulais rétablir cette vérité. Fabien?
Bah en fait, dans le football, c'est la magie du football qui fait que tout peut se passer. Donc, bon, bah là, il y a eu le bien, le moins bien. À l'époque, c'est pareil, je me rappelle, hein, la main, elle a été longtemps, longtemps. On a pas su au début que c'était une main. Hein. Enfin, moi, de ce que je me rappelle, ça a mis très longtemps. Aujourd'hui, on a des images, on a tout ça, mais.
Si, Jean-Michel Larquet et Thierry Roland en direct, ils le voient, j'ai réécouté les images et ils le disent, aussitôt il a marqué, ils le disent tout de suite, hein.
Ouais.
Je m'en rappelais plus moi non plus, mais en réécoutant là, récemment la vidéo, j'ai été bluffé qu'eux le voient aussitôt et disent, monsieur l'arbitre, il y a main, il y a main, et en fait, non, l'arbitre, il valide le but, quoi.
Mais ouais. Si tu regardes derrière, il n'y a pas eu de... j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un petit déni sur la main et qu'en fait on n'en a pas trop parlé parce qu'on voulait
alors,
peut-être pas justement enlever la magie.
Alors Maradona est très malin là-dessus, Fabien, parce qu'il faut savoir que quand il marque, il fait un geste comme si il avait j'ai volé le portefeuille. Et c'est ce qu'il semblerait, le geste qu'il a, il a envoyé, montré à son père. Et à ce moment-là, évidemment, les Argentins, ils sont là, ils sont hagards, il y a but ou il n'y a pas but. Et lui, il leur dit, mais venez, bande d'abrutis, sinon l'arbitre, il va refuser. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a peu de temps, dans une interview que j'ai écoutée sur RMC, l'arbitre du match, Benacer, le Tunisien, va dire: ah, mais c'est pas ma faute à moi, c'est l'arbitre de touche, j'ai vu l'arbitre de touche, il a validé le but, donc moi finalement j'ai suivi mon assesseur. Bon, voilà, c'est vrai que c'est très très très.
En l'occurrence, ça se passe en face de l'arbitre de touche.
Oui, c'est vrai que ça se passe en face d'arbitre de touche. Maintenant, moi j'ai une question à vous poser, les gars. Est-ce qu'on a vu un joueur dans une Coupe du Monde autant être dominé une compétition, autant dominer une Coupe du Monde? Moi je vous dis franchement, je pense pas.
Et encore une fois, par rapport au niveau de l'époque.
Et par rapport au
Par
niveau de
rapport au
l'époque.
niveau de l'époque où toutes ces générations d'équipes qu'on a citées et qui étaient au sommet de leur art, et que le gars il survole la Coupe du Monde aussi facilement, enfin, j'ai pas trop le souvenir de quelqu'un qui aurait pu comme ça. Alors il y en a qui ont dominé des Coupes du Monde, il n'y a pas de souci, mais avec des niveaux d'autres équipes aussi forts, je sais pas.
Moi, je me rappelle de Zinedine Zidane en 2006 quand il fait les matchs contre l'Espagne, le Brésil, là où voilà, il déclenche tout,
Portugal aussi.
même en finale, Portugal, où là, mais il n'a pas eu le rayonnement, je pense, qu'a eu Maradona.
Bah c'est en fait c'est trompeur parce que Zinedine en 2006, bah le truc c'est que d'abord il gagne pas. Deux, c'est que ses premiers matchs de prépa sont pas terribles, puisque effectivement il y a deux matchs où il est pas à son niveau, et puis après il est suspendu face au Togo. Mais surtout, il y a un point, c'est que l'équipe de France, bah, il y a du beau monde hein, autour de lui. En 2006, il y a quand même une très 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 belle équipe. Alors que Maradona en 86, à part Burruchaga Valdano, c'était pas non plus, c'était pas la
Il y
Dream
avait
Team,
quelques
quoi.
bouchées derrière.
Comment?
Il y avait quelques bouchées derrière.
Oh, il y avait des bons joueurs, il y avait José Luis Brown qui était un joli footballeur, bon, l'Artico Echea qui est allé à Nantes, mais bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas que des poètes, hein. Quand tu avais Batista ou d'autres comme Justy, c'était des joueurs qui étaient assez rugueux. Alors, après cette Coupe du Monde, Diego comprend bah, qu'il est le roi du monde, évidemment, on le voit même jongler avec une map monde à un moment donné, il jonglait avec tout Diego, hein. Même avec les ennuis malheureusement. Et il va gagner le Scudetto en 87, la Coupe d'Italie. Et clairement, il y a une fête incroyable. Hein. Vous imaginez, dans les cimetières, il y a même eu des tags. Alors les tags disent, vous savez pas ce que vous avez loupé. Hein. C'est extraordinaire. Et en 87, bah, Platini, lui, prend sa retraite. Et à l'époque, on était soit platinien, soit maradonien. Fabien, t'étais plutôt quoi, toi?
Bah, moi j'étais plutôt Platini. Je trouve que moi je suivais beaucoup l'équipe de France. J'étais beaucoup plus là-dedans. On voyait un peu moins peut-être les images aussi.
Ah oui, on les voyait pas.
Ce qui pouvait se passer à l'extérieur au niveau de l'Argentine ou des clubs européens, c'était pas comme maintenant, hein, c'est pareil. Donc moi j'étais quand même plus équipe de France, voilà.
Oui, l'équipe du dimanche, c'est 91, hein, à peu près, me semble-t-il.
Ah oui,
Donc,
à peu près.
le football. Alors, il y avait l'émission 10 Platini, animée par Bernard Père à l'époque, mais on n'avait que les buts de Platini. Et puis, il y avait les matchs de l'équipe de France. Et c'est vrai qu'on se le dise, moi, j'étais plus Platini à l'époque, je reconnais, d'abord parce que je suis né le même jour que lui, mais aussi parce que bah, c'était le joueur que je voyais le plus. Je voyais pas trop Maradona. Manu, toi, t'étais plutôt quoi?
Bah, moi effectivement, où il y avait téléfoot aussi à l'époque, mais non, j'étais plus Maradona, le côté dribbleur,
Ouais.
voilà. Et en ayant grandi dans les quartiers, dans un petit quartier, et forcément on s'imagine à lui quand on se driblait en bas de chez nous, quoi.
Ouais. Francky?
Moi j'étais plus Maradona pour son côté populo et magique. Puis son côté roublard aussi que j'adorais. Platini pour moi c'était plus un aristo du foot. En plus il jouait à la Juve, les cheveux bouclés, toujours le corralitier droit. C'était moins mon truc, quoi.
Ouais, c'était un peu le côté plus propre, on va dire.
Voilà, un peu à la Rabiot en fait,
Ouais.
Duc.
Alors justement, en parlant de Platini, Platini va organiser son jubilé, il va inviter Maradona avec ce fameux slogan No Drogue. Bon, Maradona n'a pas tellement envie de venir d'ailleurs, hein, puis finalement, il va venir, il jouera même une mi-temps avec... les chaussures de Jean-Pierre Papin. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est qu'Hugo Sanchez, quand il réalisera le jubilé, il dira: moi je veux bien jouer, mais qu'à une seule condition, c'est faire la première mi-temps avec Maradona. Et finalement, Maradona, ben, il est tellement heureux de jouer qu'il veut plus céder sa place. Mais le soir, Platini a laissé des dortoirs. Mais là, Platini va vraiment être très agacé contre Diego, parce que Diego va tout retourner avec une bande de copains. Ils vont faire une soirée, une nouba d'enfer. Et évidemment, Platini le raconte. Enfin, c'était Didier Roustan qui le raconte et qui lui dit: mais Michel, Michel, de quoi tu te plains? Tu as eu Diego à ton jubilé, et ça vaut tous les dortoirs du monde. Alors, le Napoli va gagner la Coupe de l'UEFA. C'est quand même, là à l'époque, c'est la Coupe UEFA. C'est la grosse coupe, hein, les gars. C'est pas la Coupe d'aujourd'hui, Ligue
Oui,
Europa.
non, non,
C'est
bah, bien
comment?
sûr. Bien sûr, à l'époque, ils n'étaient pas tous reversés en C1, hein, les quatre premiers.
Et il va regagner un autre titre. Alors, le titre de 90, il a un goût amer parce que Maradona, ça fait un moment qu'il veut partir et Ferlano le retient parce que, évidemment, c'est la poule aux œufs d'or. Et on raconte aussi l'anecdote. Il aurait pu partir à l'Olympique de Marseille, quoi. Honnêtement, Fabien, Maradona, l'Olympique de Marseille, avec ce qu'on sait aujourd'hui. Ça aurait eu de la gueule, hein, Papin Weddle Maradona devant, mais ça aurait marché, tu crois?
Bah, ça aurait eu de la gueule, mais j'y crois pas trop. Après, je sais pas aujourd'hui si on peut être sûr de ce qui a été fait ou pas. Je crois pas d'ailleurs. Mais moi, je pense que c'était plutôt de l'intox que. Je suis pas sûr que Maradona voulait vraiment aller à Marseille. Donc,
Ouais.
mais ça aurait eu de la gueule quand même sur le terrain.
Ah,
Ah, ça aurait eu de la gueule sur le terrain,
ça aurait
ça
été
c'est.
joli, hein. Alors, il y a cette Coupe du Monde 90. Assez particulière, je dois vous dire. Moi, j'en garde un souvenir un peu mitigé. Les Argentins, ils vont jouer à l'italienne, hein, clairement. Bon, leur entraîneur, c'est Bilardo. Et c'est une véritable boucherie. On va avoir des matchs pas forcément de grande qualité. Mais ils vont réussir à sortir les Brésiliens en faisant. Ils se sont fait bouffer tout le match, hein, clairement. Les Brésiliens tapent sur les poteaux. Et à un moment donné, au moment où on s'y attend pas, Maradona, ils vont embarquer toute la défense. Il va envoyer un ballon sur Caniggia, il va éliminer toute la défense. Et finalement, ils vont éliminer le Brésil. Quel souvenir vous gardez de cette compète, les gars? Alors, on reste sur Diego, bien sûr, mais quel souvenir vous gardez?
Moi, j'étais pour le Brésil, alors forcément, j'étais un peu dégoûté parce que c'était encore. Mais je me rappellerai même, c'était un samedi après-midi de mémoire.
Mais
Pour la
c'est.
petite. Donc, j'avais un peu les boules, quoi.
Ouais,
J'aurais bien
mais.
aimé voir le Brésil parce qu'à l'époque, je n'avais pas vu le Brésil gagner une Coupe du Monde. Donc, voilà. Je misais plus sur le Brésil à l'époque vu que la France n'en avait pas fait partie en 90.
Fabien?
Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'équipe de France n'était pas là, hein. Et pareil, comme on le disait tout à l'heure, moi je regardais beaucoup l'équipe de France. Donc pour moi, cette Coupe du Monde, elle a été. Enfin, je ne l'ai pas trop regardée. C'est vrai que ça n'a pas été quelque chose où j'ai voulu. Je ne me rappelle pas vraiment de gros, gros souvenirs, hein, franchement. Ouais.
Francky?
Moi, c'est pas forcément l'Argentine qui m'a marqué, c'est plus le Cameroun-Angleterre, puisque c'était une des premières fois où une équipe africaine arrivait en quart. Avec Roger Milla devant, et c'est ce plutôt souvenir-là que j'ai de la Coupe du Monde 90.
Oui, on a l'impression que Maradona fait pas une très grande Coupe du Monde, il marque pas de but contre la Yougoslavie, ils vont jusqu'au penalty avec ce magnifique joueur qui est Dragan Stojkovic. Ils vont aussi en demi-finale contre l'Italie au penalty. Il y a cette finale face à l'Allemagne qui est une véritable boucherie, qui est vraiment pas une belle finale. En tout cas, pour moi, c'est la finale la plus horrible que j'ai pu voir depuis que je vois de la Coupe du depuis je vois des matchs de Coupe du Monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Diego, en fait, on l'a appris après, était blessé. Il était blessé à un pied. Et il avait une chaussure avec deux tailles de plus parce que véritablement, il était blessé, il souffrait le martyr. Et puis il y a eu cette anecdote qu'on a racontée quelques années après où Maradona explique que le soigneur de l'Argentine avait mis on va dire dans les boules, hein, les boules d'eau, il avait mis des petits produits hallucinogènes. Et Branco, l'arrière-gauche du Brésil, à un moment donné, commençait à tourner de l'œil. Et cette histoire a fait sensation, puisque Maradona l'avait raconté dans une émission de télé, un peu décontractée comme il pouvait être. Diego, l'esprit provoque. Alors, malheureusement, parce que Diego va faire face à l'Italie, c'est-à-dire éliminer l'Italie, ça va sceller son sort. Il est la personne la plus détestée d'Italie. Et il va en 91, finalement être arrêté par la police, par les policiers italiens, pour détention de cocaïne. Et là, c'est la descente aux enfers. 14 mois de suspension. Francky, c'était pas un peu trop?
Ah, il faut se remettre dans le contexte où le sport prenait de plus en plus d'importance dans la société, notamment au niveau économique. Rappelons-nous que les premiers tests antidopage ont lieu dans l'athlétisme dans les milieux des années 80 avec Ben
Ben
Johnson
Johnson, oui.
qui sera son préparateur physique avant 94. Je pense à cette athlète aussi, Florence Griffith-Joyner, qui se fait attraper pour une prise de stéroïdes. Donc, on a voulu avant tout faire un exemple. En fait, je pense qu'avec le recul, l'exemple c'était non, la drogue ne rend pas plus fort. Parce qu'il était tellement au-dessus du lot que on aurait pu penser bah, en prenant de la coke, bah ouais, je vais devenir Diego, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui a joué.
Ouais, mais alors tu sais, à l'époque, Platini lui a mis un tacle glissé, même si c'était pas sa spécialité. Il disait, Maradona, tout le monde savait que c'était pas lui qui allait pisser au contrôle antidopage. C'est-à-dire qu'aussi, il y a ce côté tricherie, quoi. Moi, j'adore Diego, hein, mais il y a quand même ce côté, je l'ai fait à l'envers de tout le monde.
Oui, il y a le côté, tu as raison, le côté roublard, mais il donnait tellement de bonheur aux gens que pff, moi, j'étais prêt à passer au-dessus, quoi. C'est tellement exceptionnel d'avoir des joueurs comme ça. Il y en a eu tellement peu au final que, allez, pour toi, Diego, je passe l'éponge, quoi. Il y en a de
Francky,
moins en moins.
Fabien?
Et il donnait tellement de bonheur que les
Qu'il a eu
politiciens.
beaucoup, il a eu beaucoup d'enfants, c'est ça?
Les politiciens, ils se sont aussi arrangés pour que leur image fasse partie de, enfin, soit collée à Maradona quand il était dans ses gloires. Et après, toujours pareil, quand tu commences à tomber, là, il n'y a plus personne. Et c'est comme tu tombes de plus haut, j'ai envie de te dire, c'est là où tu te ramasses et que plus personne. C'est un peu, j'ai un peu là, avec Armstrong, si tu veux, ou comment Nike avait commencé un peu à le lâcher. Et à partir du moment où Nike te lâche, après, c'est fini, quoi.
Oui,
Tu
c'est
tombes
vrai,
aux
tu as
enfers.
raison. On parle beaucoup de Chavez, de Castro, de toutes ces choses-là, mais il faut se rappeler aussi qu'il y avait le président Carlos Menem, le président argentin, qui à l'époque, évidemment, jouait de son côté. J'aime le foot, j'aime Diego. Alors, il lui avait donné un ballon, il avait fait quelques jonglages. C'était c'était risible. Alors, évidemment, Diego va quitter Naples. Moi, je voudrais vous raconter une anecdote, parce que je suis allé à Naples il y a 2 ans. Et ma femme est italienne et on a été dans un taxi et ma femme dit mon copain adore le Napoli mais surtout enfin il aime surtout Maradona. Et là le taxi il se retourne, il me regarde parce que j'étais à l'arrière et là il commence à sourire. Et il m'explique, il me dit, vous savez, nous les taxis c'était extraordinaire parce qu'en fait on faisait la queue pour pouvoir emmener Maradona. On l'emmenait à minuit, il allait manger une pizza, et puis il revenait à 7-8 heures du mat, des fois plus, et évidemment, le truc, c'était que fallait le ramener. Et dit un jour, j'ai emmené mon gamin, et c'était la semaine des vacances, et dit, j'ai emmené mon gamin, on a vu Maradona, il était minuit, et Maradona a pris une cacahuète, et dit, je vous assure que c'est vrai, il a pris une cacahuète, et il a fait je ne sais combien de jonglages avec. Et le gamin est rentré. Il est rentré chez lui, il a fait « Maman, maman, j'ai vu Maradona, je l'ai vu jongler avec une cacahuète, ce type est extraordinaire !» Et c'est ça, Maradona, c'était finalement, comme le dit Francky, c'est le bonhomme qui a donné du bonheur à des gosses, qui a fait rêver des gamins, qui nous a mis des étoiles dans les yeux.
Oui, vous
À
avez
ce
raison.
sujet-là, il y a une autre anecdote lorsqu'il est à Naples. justement pour donner du bonheur. Quand il y avait un match qui voulait, il y avait un enfant qui avait des problèmes de soucis, un enfant qui avait des soucis de santé, pardon, et il était ami avec un joueur de Naples, et il vient voir Maradona et dit: tiens, écoute, il y a l'enfant là, il y a le problème, il doit se faire opérer en France, mais la famille a pas assez d'argent, et il décide d'organiser un match à Naples. Donc ils vont voir le président, et le président il dit: non, les gars, votre match là, c'est pas possible, je pourrais pas vous donner. Concentrez-vous plutôt sur le match qui arrive là en championnat. Je ne sais contre qui c'était, mais je vous laisserai pas, je vous donnerai pas le Saint-Pauli pour faire votre match. Et ben du coup ils ont quand même fait le match sur une tribune avec 5000 personnes qui débordaient à craquer. Échauffement sur le parking devant la Fiat 500, avec sur un terrain boueux. Et il va même jusqu'à marquer un but type Coupe du Monde 86 contre l'Angleterre, où il prend le ballon et dribble 4 gars. Bon, effectivement, c'était pas bien difficile, parce que vu le terrain, il y a quelques glissades à la moindre feinte. Mais ouais, non, le gars, quand même, il a donné du bonheur, puisque finalement, ils ont récolté des sous pour que l'enfant puisse se faire opérer en France. Donc,
Ouais. Voilà. Alors il atterrit à Séville avec quelques kilos de plus, un genou défaillant. Bah, évidemment, il a perdu de sa superbe. Hein. Moi, je me pose la question, est-ce que, bon, Séville était le bon choix, mais effectivement, il va se refaire attraper par ses démons et être contrôlé positif au test antidopage. Et on le retrouve en Coupe du Monde en 94. Et là, moi, je vous dis franchement... Ce jour-là, on a brisé tous mes rêves, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai revu Maradona revenir avec l'équipe d'Argentine, je me dis, cette équipe-là va aller au bout. Parce qu'il y avait du beau monde, hein. Batistuta, Redondo, Simeone, et je vous en passe. Je voulais savoir si vous avez eu ce même sentiment. On nous a cassé notre rêve, finalement. Francky?
Complètement. Moi, je me souviens de la Coupe du Monde 90, où j'avais trouvé Diego un peu empâté et très, très fatigué. D'ailleurs, sur le match d'ouverture, je l'avais vraiment trouvé hors de forme. Alors qu'en 94, je me régalais parce que il était affûté comme jamais. Il met ce but contre la Grèce extraordinaire, avec la célébration qui est restée dans les mémoires. Et je crois que c'est la première fois, la seule fois de ma vie où je me suis dit... Fermez les yeux, s'il vous plaît, fermez les yeux, laissez-le sur le terrain.
Ouais, et moi, c'est la première fois que j'ai pleuré pour du football, quand j'ai vu ça. Et j'ai trouvé que dans cette Coupe du Monde-là, il avait, je vais pas dire qu'il avait épuré son jeu, ça serait tellement ridicule de dire ça. Mais en fait, comme il pouvait plus jouer sur les armes de vitesse, de prise de balle, où il allait provoquer tout le monde... Il jouait, d'ailleurs, le but qu'il marque contre la Grèce et l'illustration, il y avait un jeu très intelligent, quoi. C'était très intelligent ce qu'il faisait. Et c'est une vraie frustration. Fabien, tu te souviens de cette Coupe du Monde?
Il n'y avait toujours pas l'équipe de France.
Ouais. Merci Ginola.
Bon. J'ai ouï dire que s'ils avaient été, ils auraient gagné.
Ah, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore, quand je dis merci Ginola, je tiens à rétablir ce que je dis, parce que pour moi, Ginola n'est absolument pas responsable. On pourra peut-être y venir un jour, mais j'ai trouvé que ce procès avait été vraiment dégueulasse à son encontre. Alors, Maradona va passer aux Newell's, Old Boys. Il va faire 5 matchs. Bon, il va ensuite aller à Boca. Évidemment, il reviendra jamais à son niveau. Et puis, il y a ce jubilé, il va devenir entraîneur. Bon, un entraîneur avec une carrière forcément mitigée. Mais Francky, on se souvient, nous on y était, c'était ce fameux France-Argentine. Bon, il y avait du beau monde sur le terrain. Il y avait Anelka, Henri, Messi, Agüero. Mais en fait, tout le monde s'en foutait. Hein. Tout le monde voulait voir qu'une chose, c'était Maradona.
Ouais, complètement. T'as complètement raison, parce que ce jour-là, je pense que 90% des spectateurs ont pris leur billet pour voir Maradona.
Ah ben c'était, t'as pris ton match pour aller voir ton billet pour aller voir Maradona? C'était même pas France-Argentine.
Non, le match, je me souviens même pas du match ni du.
Moi non plus.
Tout ce que je sais, c'est que j'avais planqué mon appareil photo dans la poche et que j'avais essayé de zoomer à fond sur Diego. J'étais pas le seul. Et une autre chose qui m'a marqué, c'est quand tout le monde a retenu son souffle, quand il a effleuré un ballon en espérant qu'il fasse deux jongles et deux, trois trucs. Non, c'était génial.
Ah oui.
Absolument génial.
Moi, je me souviens du... Je me souviens surtout du vent qu'il avait mis à David Astoria. Alors c'est après, lors de l'interview, c'était assez coton. Bon, les gars, on arrive en fin de notre première émission. Et évidemment, c'est un format un peu plus long. C'est un format plus long parce que c'est sur Diego, c'est une spéciale et que je dirais Diego vaut bien un format beaucoup plus long. Je voudrais vous poser quelques questions et puis vous me répondez un peu comme ça, tour à tour. Un jour, Maradona a dit quel joueur j'aurais été si j'avais pas touché à la drogue. Manu, t'en penses quoi?
Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas, on le saura jamais. Certainement, il aurait été plus performant, certainement, il n'aurait peut-être pas été, parce que peut-être plus angoissé, plus stressé, moins bien dans sa peau. Donc, ça restera un mystère et on ne le saura jamais.
Fabien?
Bah, il aurait été peut-être plus performant, mais par contre, est-ce que ça, on s'en serait rappelé autant? Je pense que ces frasques font aussi que c'est l'homme, quoi. Enfin, voilà, c'est du Maradona. Donc
Ça fait
après,
partie du mythe, en fait.
voilà, c'est ça. Je pense qu'il a créé son mythe et il était comme ça. Donc, un génie du football et il adorait se faire aimer par la foule.
Francky?
Oh ben moi, je vais juste répondre par une autre anecdote. Hein. Quand il a dit la cocaïne, c'est pour laisser un avantage à Pelé et à mes adversaires.
Ouais, c'est Diego.
Voilà.
C'est Diego. Alors, effectivement, la question que j'ai envie de me poser, les gars, c'est moi, je me suis demandé si c'était pas le dernier footballeur un peu rockstar. Parce que, évidemment, il est mort le même jour que George Best, qui est un joueur que j'adore et qu'on adore. Et on pense à ce type formidable, ce dribbleur qui a beaucoup inspiré Maradona, d'ailleurs. Mais pour moi, Maradona, c'était un peu. Bah, on sait, on a une génération de rap qui arrive, donc les choses vont changer, les codes vont changer. Mais pour moi, Maradona, c'était l'incarnation de la pop star.
Style Jim Morrison.
Par exemple, tu vois,
Non,
tu dis Jim Morrison. Je pose une question aujourd'hui. Quelle personnalité aura son pèlerinage au cimetière? Alors moi, oui, Jim Morrison au Père-Lachaise, mais je vois pas d'autres personnes, à part peut-être Diego.
mais effectivement, sur ce niveau-là, il y aura pas, enfin, je pense pas. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les mecs peuvent pas se permettre toutes ces extravagances. Donc, je pense qu'effectivement, ça restera certainement le dernier.
Fabien?
C'est vrai
Un
que.
petit peu comme dans la musique où tu vas avoir un Michael Jackson, où on peut voir effectivement que c'est à peu près commun, quoi. Au niveau, ça va très très haut et après il descend très très bas, donc.
Ouais, mais c'est comme mais Elvis aussi, hein, ton exemple est très bon. Elvis, Michael Jackson, même Prince qu'on adore, puisque Frankie, toi qui es notre caution musicale et qui est vraiment le Manitou des platines, qu'est-ce que tu. Ah, il y a Manu qui dodeline, parce que Manu aussi a un gros niveau, bien sûr, mais.
On adore la musique.
Frankie, toi, qu'est-ce que tu penses?
Bah, en fait, au-delà de ces considérations musicales, non, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est une icône, tout simplement. Au même titre que certains acteurs ou actrices comme Marilyn Monroe, des musiciens ou chanteurs comme John Lennon, comme Elvis Presley, comme vous avez cité. Je pense que dans le sport, il y a très 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 peu d'icônes. À mon sens, il y en a une, c'est Cassius Clay, Mohamed Ali et Maradona. J'en vois pas d'autres.
Mais les autres sont
C'est
trop lisses. En fait, c'est ça le truc,
ouais, je pense.
Francky. C'est qu'ils sont trop lisses. Beaucoup ne veulent plus prendre la parole. Beaucoup n'ont plus. D'ailleurs, dans le football d'aujourd'hui, tu vas me dire le type rockstar. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Peut-être Diego Costa. Tiens, un autre Diego. Mais sinon, bon.
De rockstar, non, c'est des rockstars, mais
Le
pas
côté
de.
un peu joue ma gueule quoi, je un peu rebelle.
Ah non, mais ils sont trop lisses aujourd'hui. Même Ibrahimovic, qui la ramène tout le temps, et il arrive pas à la cheville, enfin, au niveau rockstar, on va dire, de Maradona, quoi.
T'as du mal
Au
avec
contraire.
Ibrahimovic, hein, Manu?
Pardon?
T'as du mal avec Ibrahimovic, hein? Alors ça sent la fin de soirée, ça.
je parle pas, pourtant j'étais à Ikea samedi, mais.
Bon, en
non,
fait.
le dernier que je verrai dans ce registre, c'est Cassano. Voilà, j'ai cherché aussi et je me suis dit, voilà, c'est la personnalité qui se rapproche le plus de Diego, mais un cran en dessous quand même.
Et Gascogne?
Ah oui!
Ah oui. Mais bon. Si je te parle de Gascogne.
C'est de la même époque.
Oui, c'est de la même époque, mais quand on parle des rockstars encore vivantes, même Cantona, hein, on pourrait dire qu'il a un côté un peu rockstar. Oui. Bon, toujours est-il qu'en fait, Frankie Maradona, il a énormément impacté sur la culture, c'est-à-dire il a inspiré les films, la musique. C'est quelqu'un qui, en fait, à l'époque. C'était très beau enfin, de faire des chansons sur des footballeurs. Hein. D'ailleurs, quand on entend les chansons sur Marius Trésor ou les trucs, c'est juste horrible. Mais Maradona, on a eu des belles chansons, des œuvres magnifiques. Finalement, c'est bankable, Maradona, aujourd'hui.
Ah oui, oui, bah comme je le disais tout à l'heure, c'est devenu une icône. Donc forcément, comme toutes les icônes, bah, oui, c'est bankable, comme tu dis. Oui, des très belles chansons. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il y a eu des chansons écrites dans tous les pays. C'est pas lié que des chanteurs argentins. Il y a des chanteurs français, des chanteurs italiens, des chanteurs espagnols.
Benjamin Biolay.
Benjamin Biolay aussi. Donc moi, Diego dans la culture, je le comparerais un peu à Warhol, quoi. C'est, il me fait penser à lui. C'est le génie à l'état pur, quoi.
Ouais.
Du pop art.
Du pop art. Alors,
ouais, ouais.
On s'est posé la question. Moi, j'ai eu quelques personnes qui sont pas forcément des amateurs de foot qui m'ont dit ouais, tu crois pas qu'on a fait un peu trop sur la mort de Diego? Fabien, t'en penses quoi, toi? Est-ce qu'on en a trop fait ou est-ce qu'on a on a fait ce qu'il fallait?
Après la mort de Diego, tu peux pas trop en faire. C'est une icône, comme le dit Francky. Tu dois faire cette transition avec sa carrière, avec ce même ses hauts et ses bas. Donc non, moi pour moi on n'en a pas trop fait. Après, je pense le problème c'est qu'on a été sur la drogue entre guillemets ou sur le côté noir, alors que je pense qu'il aurait mieux fallu qu'on retourne sur le côté plutôt génie du football où là il a fait plaisir à beaucoup beaucoup de monde et toujours encore d'ailleurs.
Alors ce qui est amusant c'est que en Argentine c'est 3 jours de deuil national, nous en France pour un président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, c'est une journée. Et pour vous dire, petite anecdote, c'est que dans ma ville qui est quand même une très grande ville, je suis allé à la mairie et il y avait l'hommage, le cahier d'or où on pouvait mettre un mot pour Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République. Et j'ai ouvert le cahier et il était blanc. Il était 16h. La mairie allait bientôt fermer. Et là, je me suis dit, en fait, ils auraient mis un livre d'or pour Maradona. Je pense que là, il y aurait eu plus, le livre d'or aurait été plus rempli que pour Valéry Giscard d'Estaing. Mais bon, c'était une autre époque, comme dirait l'autre. Les gars, juste... pour terminer, est-ce qu'à votre avis, des joueurs comme Maradona, il y en aura d'autres à l'avenir? Francky?
Non, je pense pas. Alors, peut-être au niveau du football, on ne sait jamais. Hein, il peut sortir un joueur de cette trempe. Au niveau de l'humain, non, je pense que c'est fini. Tout est, comme l'a dit Manu tout à l'heure, tout est cloisonné. Ils ont des conseillers de com, des conseillers de ci, des conseillers de ça. Et puis, ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible.
Plus aujourd'hui, c'est les stats. Voilà, il faut que j'ai fait tant. Lui, à l'époque, il était là. Voilà, il avait deux rêves. C'était de jouer la Coupe du Monde avec l'Argentine. Et le deuxième rêve, c'était de la gagner. Aujourd'hui, alors je dis pas que les footballeurs, ils n'ont pas le rêve de gagner la Coupe du Monde, mais c'est plus individuel, quoi.
Tout est lissé.
Donc, il n'y aura pas, pour moi, il n'y aura plus de mecs comme ça.
Oui, mais l'équipe a d'ailleurs sorti un magazine exprès pour Maradona, hein, d'ailleurs, où il dit Dieu est mort, et je vous demanderai s'ils n'en ont pas trop fait aussi. Mais c'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'à l'époque, dans le quartier de Maradona, Maradona et ses copains, ça jouait au football, ça, Ça lui a permis aussi de pouvoir vraisemblablement progresser, mais qu'aujourd'hui, la ville est tellement gangrénée par l'insécurité, par la drogue, par toutes ces choses-là, qu'on joue plus au foot dans les rues. Ça, c'est terrible, et ça peut participer au fait qu'on n'ait plus des phénomènes comme ça. Peut-être, hein, je mets des guillemets là-dedans. Alors justement, Dieu est mort. Bon, Dieu est mort ou l'équipe en a fait des caisses?
Non, et pour nous qui avons eu la chance de le voir jouer, il n'est pas mort comme d'autres artistes qui nous ont quittés. Moi, je garderai Diego toujours dans ma tête et dans mon cœur parce que j'avoue, j'ai été très affecté par son décès.
Fabien?
Ouais, je pense que c'est ça aussi, comme dit Francky. Malgré tout, on ressent quand même à sa mort, on s'est dit, tiens, encore une partie de nous qui part. Ça a été quand même une idole. Donc, c'est ça, c'est ce que dit Francky, quoi.
Notre jeunesse qui fout le
Ça fait
camp.
bizarre.
Notre jeunesse qui
Ouais,
fout le camp.
pareil.
Ouais.
Je pense pas qu'ils en ont fait trop. Après, voilà, après c'est un magazine de sport, donc c'est forcément qu'ils en parlent, quoi.
Les gars, un petit mot pour conclure. C'était notre première. On se retrouvera régulièrement. Fabien, Francky, Manu, on est quatre copains et on des amis de 30 ans. Et on vous parlera aussi de nos expériences de joueurs à l'époque. Mais là, pour l'heure, c'était honneur à Diego, au grand Diego. Il y a aussi d'autres qui nous ont quittés, d'autres personnes qui nous ont quittés. On pense cette année à Robert Herbin, à Michel Hidalgo, évidemment. On pense à Paolo Rossi, on l'a dit tout à l'heure. On
Oh,
pense.
une espèce d'équipe là-haut dans le paradis,
Oui,
à un moment
oui,
donné.
effectivement. Quand Thierry Roland va
Ça joue
commenter ça avec Gilardi,
Ah,
ça va être pas
demi-point.
mal. On pense aussi évidemment à Bruno Martini, qu'on avait eu la chance de rencontrer tous ensemble d'ailleurs. À Clairefontaine. Il y a aussi Dominique Olagnier qui avait joué à Saint-Étienne. J'en oublie d'autres. Hein. J'oublie Anne Sylvestre aussi qui m'a fait rêver. Mais qui n'est pas la mère hein, de Franck ni Michael Sylvestre. Et puis Dark Vador qui était mon homme du côté obscur préféré. Les gars, pour conclure, un petit mot sur Diego. Francky?
Ben, Diego, c'est Diego. Hein. Hasta la vista.
Ouais. Manu?
Moi, je dirais la magie du football. Et hasta la vista aussi.
Au revoir, grand monsieur. Comme disait Francky, on n'oubliera pas tout ce qu'il a fait. Il y aura des images et encore des images que nos enfants verront. J'espère que ce sera que pour le football.
Mais moi, je voulais vous faire une confidence, je ne l'ai jamais dit à personne, mais la nuit, quand j'arrive pas à m'endormir, je ferme les yeux et je repense aux actions de Diego. Et ça, je vous jure que c'est vrai. Eh bien, si vous n'arrivez pas à dormir, faites-le, vous allez voir, c'est fantastique parce que vous allez partir au pays des rêves. Diego, merci de m'avoir fait rêver. Merci aussi d'avoir donné tout ce que tu as donné au football. Et éclate-les bien là-haut, hein. On pense à toi. Salut Diego.
Salut, salut à tous.
Salut à
Salut
tous,
à
merci.
bientôt.
Ciao.
Salut.